Vous écoutez, on lit pour vous.
Des familles sans voix face à la maladie mentale. Un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallet, paru le 21 avril 2025 dans Le Devoir. Devant gérer un proche en psychose, mais jugé non dangereux par le système, des familles racontent au Devoir leur détresse. Elle dénonce un système qui les laisse seules et impuissantes, parfois jusqu'au drame. Des experts réclament une réforme des lois pour mieux soigner ces personnes et alléger la confidentialité médicale. Depuis maintenant 25 ans, Nathan est atteint de schizophrénie. Son père, Maurice, et sa sœur, Nathalie, doivent composer avec sa maladie et en particulier avec ses épisodes psychotiques. Nous avons choisi de taire le véritable prénom de Nathan afin de ne pas lui porter préjudice. Pour Maurice et Nathalie, parler publiquement de leur situation est un dernier recours. Ils ont tenté à de multiples reprises d'obtenir de l'aide afin de faire soigner Nathan. Ils ont cogné en vain à la porte d'hôpitaux, de services de police, de tribunaux et même d'élus. Ils craignent plus que tout qu'il en vienne à commettre l'irréparable. Lorsqu'il ne prend pas ses médicaments, ce qui est le cas la majeure partie du temps, Nathan perd contact avec la réalité, a des idées délirantes, est convaincu d'être surveillé et écouté. Il soupçonne que des micros et des caméras sont cachés partout dans les murs, et même dans ses propres lunettes. Au fil des années, d'inquiétants incidents se sont succédés. Il appelait mon père pour dire qu'il y avait des espions ou des personnes armées sur le toit du bâtiment. Mon père a passé des nuits stationné devant chez lui. Il n'y avait rien. Il a cassé ses lunettes parce qu'il voyait des micros. Il a défoncé des murs avec sa tête parce qu'il voulait trouver des caméras cachées, relate Nathalie. Ses délires ont augmenté avec le temps. Et il y a eu un épisode où, en pleine psychose, il a pris un grand couteau de cuisine et est sorti sur le balcon en criant « Vous allez voir qu'est-ce que je suis capable de faire », raconte-t-elle. Malgré des appels répétés à la police, la famille de Nathan ne réussit pas à le faire hospitaliser. Pas même quand, au printemps 2021, Maurice reçoit un message lui disant « Je vais te tirer ». La plainte n'a pas été retenue, car le verbe « tirer » n'était pas conjugué et Nathan tenait un discours délirant. Les policiers ne considéraient donc pas le message comme une menace, se souvient Nathalie, encore visiblement sous le choc. Libéré avec condition, puis sans. En décembre 2022, Nathan est reconnu non criminellement responsable de méfaits publics commis alors qu'il vivait dans la rue. Il avait fait des appels répétés au 911 en indiquant faussement que la vie d'une personne était à risque. Il est donc placé sous la surveillance de la Commission d'examen des troubles mentaux, CETM, une division du Tribunal administratif du Québec. La CETM est responsable de déterminer si une personne représente, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public. Elle décide donc si la personne sera détenue dans un hôpital afin d'y recevoir des soins psychiatriques ou si elle sera libérée avec ou sans condition. C'est la seconde option qui est retenue pour Nathan. La commission le libère à condition, notamment qu'il se conforme aux recommandations de son équipe traitante et qu'il s'abstienne de consommer toute drogue, puisqu'il présente un risque important pour la sécurité du public, mais que ce risque peut être faible tant qu'il poursuivra le traitement. Sa famille n'a appris qu'il y a quelques semaines que Nathan avait été surveillé par la CETM. En rétrospective, son père estime qu'il s'agit de la période lors de laquelle son fils a été le plus stable au cours des 25 dernières années. Sauf qu'au bout d'un an, Nathan est libéré sans condition. Peu importe le dosage de médicaments, il avait au moins une base mensuelle qui était assurée, de par sa libération conditionnelle. Mais la journée où ça se transforme en inconditionnel, on perd le contrôle, déplore Maurice. En lisant la décision sur la libération de Nathan, son père juge que quelqu'un l'a échappé, parce que la fin de l'imposition des conditions de libération a eu de lourdes conséquences. On ne peut pas l'obliger à se soigner, mais s'il avait eu un suivi, peut-être qu'il aurait encore son travail, sa chambre et son logement. Là, il a tout perdu. On va recommencer à zéro. Des familles sans outils. Il n'aura en effet fallu que 6 mois pour que Nathan tienne de nouveau des propos troublants sur Facebook. En octobre 2024, il invite des gens à se rendre armés de bâtons de baseball à une adresse réelle afin de récupérer des effets qu'il croit qu'on lui a volés. Les policiers appliquent alors la loi P38 qui leur permet d'hospitaliser une personne contre son gré si son état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Alors que les policiers n'avaient pas encore quitté l'hôpital, il m'a contacté via Messenger pour me dire de faire mes adieux à mon garçon de 2 ans et demi, raconte sa sœur, qui craint pour sa sécurité. Nathalie accompagne alors son père au palais de justice pour témoigner devant le juge qui est appelé à statuer sur la requête formulée par l'hôpital afin de soigner Nathan contre son gré. Les deux veulent faire connaître leurs inquiétudes et convaincre le magistrat de la nécessité de ses soins. Mauvaise surprise. Bien qu'une évaluation psychiatrique préconise une garde légale de 28 jours, le juge en ordonne une de 14 jours seulement. Les avocats se sont entendus sans même nous faire témoigner. Notre opinion a été jetée à la poubelle, lance Nathalie, indignée. Les avocats expliquent avoir agi ainsi pour donner une chance à Nathan de garder son emploi et son logement. Quelques semaines plus tard, Nathan se remet à publier des messages décousus sur les réseaux sociaux. Il est maintenant sans toit et sans travail, et sa famille est plus inquiète que jamais. Nathalie tente en vain d'entrer en contact avec la psychiatre de son frère, ainsi qu'avec une infirmière pour leur faire savoir que Nathan ne va pas bien. Elle n'est pas rappelée. Est-ce que la seule solution, c'est qu'il commette un délit? Peut-être. Mais encore là, j'ai l'impression qu'il sera jamais assez gros pour qu'on parvienne à le faire entrer dans le système. On aimerait bien qu'il n'y ait pas un deuxième drame comme celui de la policière de Louisville, parce que nous, on reconnaît notre histoire dans leur histoire. Clame Nathalie en faisant référence au décès de l'agente Maureen Brou, survenu en mars 2023. Je ne pense pas que c'est normal que, en 2025, il n'y ait personne qui nous prenne au sérieux. Un jour, il va arriver un drame, lâche Maurice. Nous autres, on se bat à l'année pour lui donner des bons soins, essayer de le réhabiliter. Le système n'a pas envie de s'occuper de ces gens-là. C'est un problème de société, mais on le refile dans la cour des familles et elles n'ont aucun outil. C'était « Des familles sans voix face à la maladie mentale », un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallée paru le 21 avril 2025 dans Le Devoir.
Le réseau des femmes élues de Lanaudière en mode électoral. Un texte de la rédaction paru le 1er avril 2025 dans Hebdo Rive-Nord. C'est le dimanche 30 mars dernier que se tenait l'Assemblée générale annuelle du Réseau des femmes élues de Lanaudière, RFEL, au club de golf Montcalm de Saint-Ligory, sous le thème « La politique, c'est trippant ». Après un brunch causerie, les participantes ont eu droit à une assemblée émotive puisqu'il s'agissait de la dernière de Francine Rangé à titre de présidente du RFEL. Celle-ci a été une des fondatrices de ce réseau unique. Elle l'a tenu à bout de bras dans ses temps plus difficiles et lui a insufflé ce dynamisme qui la caractérise. Elle quitte avec la satisfaction du devoir accompli. L'organisme est en santé, quoique toujours fragile, parce qu'étant à la merci de subventions qui, cette année, lui ont d'ailleurs été refusées par le secrétariat à la condition féminine. La présidente a remercié les MRC, les villes et les municipalités lanaudoises pour leur important soutien financier sans lequel l'organisme ne pourrait survivre. Le nouveau conseil d'administration du réseau des femmes élues de Lanaudière, dont les officières seront nommées lors d'une rencontre subséquente, est ainsi composé. Représentante de la MRC de Joliette, poste vacant. Représentante de la MRC de Montcalm, Josiane Forêt. Représentante de la MRC de Dautré, Sonia Desjardins. Représentante de la MRC de l'Assomption, Jennifer Robillard. Représentante de la MRC de Matawini, Isabelle Parent. Représentante de la MRC Les Moulins, Valérie Doyon. Femme membre, Chantal Lortie. Femme membre, Stéphanie Labelle. La deuxième partie de la rencontre se faisait en partenariat avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH. Marilyn Aymon, de la Direction régionale de Lanaudière du MAMH. Joseph Tian, conseiller au développement régional. Et Ariel Bérubé-Racine, conseiller aux affaires municipales et au développement régional, ont informé les potentielles candidates du fonctionnement d'une municipalité, des rôles politiques et administratifs et des démarches à suivre en vue des prochaines élections municipales. Suivant cela, en troisième partie, Valérie Doyon a animé un panel sur le thème coloré « La politique, c'est trippant ». Celui-ci a réuni Lucie Lecour, ministre déléguée à l'économie, sous la bannière de la Coalition Avenir Québec et présidente du caucus des députés de Lanaudière. Carole Poirier, directrice générale du Parti québécois de 2019 à 2021, actuellement directrice du cabinet du maire de Terrebonne. Virginie Bouchard, présidente du conseil régional de Lanaudière pour le PLQ et candidate aux récentes élections municipales dans Terrebonne, et Nadia Poirier, candidate QS aux élections générales de 2022 et lors de la dernière élection partielle dans la circonscription de Terrebonne. Celles-ci ont parlé avec conviction des côtés envahissants de la politique, des témoignages sincères qui ont plu et qui ont ravivé la flamme de plusieurs politiciennes d'expérience et en ont fait naître une chez celles qui souhaitent se lancer dans l'aventure. C'était le réseau des femmes élues de Lanaudière en mode électoral. Un texte de la rédaction paru le 1er avril 2025 dans Hebdo Rive-Nord.
François Geoffroy, on ne se bat pas toujours pour gagner. Un texte de Jean-Philippe Martel paru le 3 avril 2025 dans Nouveau Projet. Face à la crise climatique qui menace de tout détruire, ce professeur a choisi la voie de l'action syndicale et de l'espoir. C'était en septembre 2018. Le GIEC allait sortir un énième rapport sur le réchauffement climatique et la CAQ menait dans tous les sondages. sur Facebook, j'ai partagé un texte de Françoise David qui s'appelait « On déprime ou on s'exprime », en disant que ça prendrait une grosse manif pour ramener l'environnement au cœur de la campagne électorale. Ma collègue Camille a répondu « Pas game ». C'est comme ça que François Geoffroy, professeur de littérature au Collège Montmorency à Laval, est devenu militant écologiste. Un gars normal, père technicien comptable, mère secrétaire administrative, né à Joliette au milieu des années 1970, diplômé de l'UQAM en théâtre, au baccalauréat et à la maîtrise. En m'installant pour l'interviewer dans un local sans fenêtre, je pensais au contraste entre cet engagement et l'appétit politique de cette ville qui a soutenu son maire Vaillancourt jusque dans sa chute, à son individualisme qui explique peut-être son obsession pour le voiturage en solo, à l'absence à peu près totale de vision qui caractérise son urbanisme insensé, barbelé de béton. Le mouvement qui au départ s'appelait « La planète s'invite dans la campagne » a culminé dans la grande manifestation de septembre 2019. C'était l'époque du pacte de Dominique Champagne. Greta Thunberg avait annoncé sa venue à Montréal. On a eu 500 000 de personnes dans les rues de Montréal, 600 000 à travers le Québec. Ça reste la plus grande manif de notre histoire. Je me souviens bien de ces années, de mon cynisme qui contrastait avec l'exaltation de François qui, lui, prenait des appels dans le corridor devant mon bureau, entre deux cours, organisant la sauvegarde de l'avenir. « J'ai fait partie de la planète à peu près jusqu'à la pandémie », reprend François. Là, j'ai trouvé ça dur. L'isolement, l'inaction. Plusieurs militants et militantes ont prétendu que la pandémie avait brisé l'élan du mouvement écolo. François croit cependant que ça n'explique pas tout. Après la manif de septembre 2019, on savait « fuck all » où on allait. 600 000 personnes avaient marché avec nous, mais la suite, c'était quoi? Certaines militants-militantes de la planète, également enseignants-enseignantes au cégep, étaient membres du comité exécutif de leur syndicat. Ensemble, ils et elles ont décidé de fonder un nouveau groupe, avec un but différent et une stratégie plus claire. Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique. On sait que l'économie capitaliste, avec son obsession pour la croissance, est au cœur du problème. L'idée de TJC et de se servir des structures syndicales pour exercer un rapport de force vis-à-vis du patronat et faire pression pour que celui-ci modifie ses façons de faire. Dans le milieu de l'éducation, TJC organise des états généraux conjointement avec la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec afin de réfléchir à la place de l'environnement dans les programmes collégiaux. Ailleurs, ces militants et militantes offrent des formations et des espaces de discussion pour que les membres des différents syndicats s'approprient les enjeux environnementaux et exigent des changements de leur patronat. Le mouvement syndical a d'ailleurs tout intérêt à saisir l'occasion parce que la crise a déjà commencé à frapper, ajoute François. Les catastrophes naturelles affectent l'industrie touristique. Le réchauffement fait migrer des parasites qui minent l'industrie forestière. La pollution industrielle provoque des maladies que nos systèmes de santé doivent traiter. Pour les actionnaires qui visent des profits à court terme, c'est vrai que l'environnement et l'économie sont opposés. Pour les travailleurs et les travailleuses, c'est tout le contraire. On ne peut pas protéger les emplois et garantir des conditions de vie décentes pour la majorité sans s'assurer que le monde conserve un minimum de stabilité. « Comment tu fais pour continuer ?» Je lui demande soudainement, honteux. « Je veux dire, tu ne te décourages jamais ?» les discours climato-sceptiques, les milliards en pétrodollars, le BAP. Quand je pense à l'ampleur de la tâche, le retard qu'on accuse déjà en matière de prise de conscience, j'ai juste envie d'aller prendre mes enfants dans mes bras et de leur dire que je m'excuse, mais que je n'y arriverai pas. François sourit. On a le choix entre déprimer et s'exprimer. Je ne te dirai pas que je ne déprime jamais. Dans Les chemins de la liberté, Sartre faisait dire à Gomez qu'on ne combat pas le fascisme pour gagner, mais parce que c'est le fascisme. Je ne sais pas comment cette histoire va finir. Ce que je sais, c'est qu'on aura été du bon côté. C'était François Geoffroy, « On ne se bat pas toujours pour gagner », un texte de Jean-Philippe Martel, paru le 3 avril 2025 dans Nouveau Projet.
À quand un vaccin contre la désinformation? Un texte de Marine Corniou, paru le 3 avril 2025 dans le magazine Québec Science. Peut-on vacciner les gens contre les fausses nouvelles? L'approche fait l'objet de nombreuses recherches et offre des résultats encourageants. Quelle ironie! À peine arrivé à son poste de secrétaire des États-Unis à la santé, Robert Kennedy Jr. a fait face à une flambée alarmante de rougeole au Texas. L'épidémie, marquée par le décès d'un premier enfant en février, a apparemment conduit cet antivax notoire à retourner sa veste. Il a finalement lâché du bout des lèvres que les parents texans pouvaient envisager la vaccination de leurs enfants contre la rougeole s'ils le souhaitaient. L'avocat, qui propage les pires croyances en matière de vaccins, a peut-être appris qu'avant l'arrivée d'un vaccin en 1963, environ 30 millions de personnes étaient infectées par la rougeole dans le monde chaque année et 2,6 millions d'entre elles en mourraient contre 107 000 en 2023. Or, le vaccin procure une protection à vie à plus de 97 % des personnes qui ont reçu deux doses. Il serait dommage de s'en priver. Et quitte à sortir les aiguilles, peut-on en profiter pour vacciner la population contre la désinformation? La proposition est sérieuse. Elle fait l'objet de recherches qui se sont intensifiées depuis la COVID-19. Le concept? Exposer les gens à des informations manipulées pour stimuler leur immunité envers la désinformation. Soyons clairs, on est loin de l'efficacité du vaccin anti-rougeole. Mais en ces temps obscurs où la vérité passe un sale quart d'heure, une petite piqûre de rappel ne coûte rien. L'inoculation psychologique a d'ailleurs émergé aux États-Unis pendant la guerre froide pour protéger les soldats contre le lavage de cerveau communiste. En familiarisant en amont les militaires avec la propagande ennemie, on pensait qu'ils seraient moins susceptibles de céder au chant des sirènes rouges. Ce concept, aussi appelé « pre-bunking » ou « démystification préventive », soit apprendre à repérer les mensonges avant d'en rencontrer, a été popularisé par les psychologues Sander van der Linden et Jan Rosenbeek de l'Université de Cambridge, qui ont conçu le jeu Bad News, en 2018. Le but, exposer l'internaute aux différentes tactiques de désinformation pour qu'il ou elle soit plus alerte face aux informations douteuses rencontrées en ligne. L'idée est de construire une résistance psychologique ou une résilience contre une exposition future à la désinformation, expliquait Jan Rosenbeek à Québec Science, en 2021. Selon leurs travaux, après avoir joué 15 minutes à ce jeu, les gens étaient plus capables de repérer les techniques de désinformation sur Twitter. L'équipe a aussi testé la stratégie en présentant à des cobayes de courtes vidéos qui décortiquent 5 tactiques couramment utilisées pour tromper: le langage manipulateur, l'incohérence, les faux dilemmes, la technique du bouc émissaire et les attaques ad hominem. Plusieurs milliers de personnes ont ainsi appris à mieux déceler le contenu louche selon ces études encourageantes. Certains groupes de recherche estiment toutefois que la désinformation est trop complexe, trop protéiforme pour que la recette marche à tous les coups. Pire, en suscitant la méfiance, on peut amener les gens à douter un peu trop, y compris des médias fiables qui n'ont pas besoin de ça. Et une étude a montré qu'on pouvait carrément inoculer les gens contre l'inoculation, par exemple, lorsqu'une personne adepte de la théorie du complot les prévient de l'effet de cette approche. Bref, ce vaccin n'est pas magique, mais il peut être boosté. C'est ce que laisse entendre une récente étude, pas encore publiée. Menée auprès de plus de 33 000 personnes aux États-Unis, elle a comparé 9 techniques de lutte contre la désinformation, dont l'inoculation, mais aussi le déboulonnage de mythes, les messages d'avertissement, l'évaluation de la crédibilité de la source. Résultat, tout est efficace et aucune approche n'est vraiment meilleure qu'une autre. Ces résultats sont encourageants et indiquent qu'une variété d'approches pour lutter contre la désinformation peuvent être couronnées de succès, peut-on lire dans l'article. On sait qu'en combinant les boucliers, une vidéo vaccin et un message qui rappelle l'importance des faits, par exemple, on améliore la vigilance. Les scientifiques ne sont pas naïfs. Sans la coopération des métas de ce monde et de leurs algorithmes, même des individus bien préparés pourront difficilement résister au flot d'inepties que l'on trouve sur Internet. Mais alors que Donald Trump utilise la désinformation comme une arme de propagande massive, il faut continuer à poser des gestes barrières, à mener des campagnes d'inoculation et à aiguiser l'esprit critique de toutes les manières possibles. C'était « À quand un vaccin contre la désinformation ?» un texte de Marine Cornu, paru le 3 avril 2025, dans le magazine Québec Science.